Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal. Patience Ngalula Mbombo.
À la une de ces journaux, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre des discussions lors des travaux du 44e sommet de la SADC à Harare, au Zimbabwe. La SADC réitère son appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. Deux semaines après la mise en œuvre du nouvel horaire à la fonction publique, des agents et fonctionnaires de l'État s'en plaignent. Ils évoquent plusieurs défis pour se conformer à cette nouvelle réglementation. L'invité de ce journal est le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, une ONG DH habituée à faire les monitoring des prisons congolaises. Emmanuel Adou Kolé revient sur les libérations hebdomadaires des prisonniers de Makala par les ministres de la Justice. Bonjour à toutes et à tous. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, apportent leur appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. Ils l'ont dit samedi à Harare, au Zimbabwe, à l'issue du 44e sommet de cette communauté. Les travaux de ces sommets de chefs d'État et des gouvernements de la SADC ont abordé les questions d'économie, d'énergie, ainsi que des questions de paix et de sécurité au sein de la sous-région. Des détails avec Alain Irung.
La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre des discussions pendant les travaux de la Troïka de la SADC ainsi qu'au cours des travaux de la plénière des chefs d'État. Selon la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, les dirigeants de l'Afrique australe ont apporté leur appui politique, diplomatique et militaire à la RDC. L'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-RDC, la présence de la force militaire de la SADC au Nord Kivu ainsi que l'engagement au de la SAMI-RDC, des troupes combattantes de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie figurent parmi les décisions prises par les chefs d'État en faveur de notre pays, a déclaré Mme Thérèse Kayikwamba. La ministre d'État aux Affaires étrangères a aussi ajouté que la SADC a exprimé son engagement et fait part de sa préoccupation face à l'épidémie de Mpox qui frappe la RDC. La SADC soutient une riposte rapide et efficace tout en s'inspirant de la prise en charge de la pandémie de COVID-19. Au cours de ce sommet, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été investi président en exercice de la SADC et a reçu les symboles de la présidence tournante des mains de son prédécesseur, l'Angolais João Lourenço.
Entre-temps, dans la province de la Tchopo, la population du territoire des Bafoua-Sendé, située à 262 km à l'est de Kisangani, vit actuellement dans la psychose. En cause, les mouvements des populations dans les secteurs des Barumbi et Bakoumou-Dangoumou. Ces personnes fuient l'avancée des groupes armés en provenance du Nord Kivu. Certains déplacés sont arrivés à Bafoua-Sendé centre, mais leur nombre nécessite un recensement pour être déterminé avec précision, affirme l'administrateur du territoire des Bafoua-Sendé. Les points avec Jacques Moukonkolé.
La société civile locale avance le chiffre de 2674 déplacés identifiés mercredi dernier à Opiengé, chef-lieu du secteur de Barumbi, et plus de 1000 à Balobé, grand centre du secteur de Bakoumou-Dangoumou. Ces deux secteurs sont situés respectivement à 110 et 164 km de la RN4, la route Kisangani-Ituri. Les déplacés affluent quotidiennement de tous les villages de la contrée. Qui sont ces groupes armés et d'où viennent-ils? Certains pensent qu'il s'agirait des hommes d'un certain Chokoro, rival au surnommé Maradona, de leader Mai Mai, rivaux de la région. Cependant, l'administrateur du territoire, Willy Simbié, écarte cette hypothèse.
Non, ce n'est pas ça, parce que il y a même l'équipe de Chokoro qui était en affrontement avec ces gens-là. Et ils ont tué 4 éléments de Chokoro, selon les informations. Ils viennent du Nord Kivu. Ils se sont ralliés avec d'autres mouvements Mai Mai.
Le gouverneur de province par intérim dit être informé de cette situation. Didier Lomoyo-Ité coup souligne sans d'autres précisions que des dispositions sont en train d'être prises pour protéger la population. En attendant, les déplacés vivent dans la précarité et pèsent sur les familles d'accueil, déclare l'autorité locale. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, au moins 16 autres présumés criminels arrêtés dans le cadre de l'opération Safi Chamoudio à Goma, entendaient nettoyer la ville de Goma, ont été présentés samedi à la presse. Parmi ceux-ci, des présumés faux à Zalendo. Alors que la mairie déplore le non-accompagnement de la justice dans cette opération, d'autres acteurs demandent son renforcement avec des bouclages. Bernard Nyangi.
Ces présumés criminels ont été arrêtés lors d'une série d'opérations ayant suivi plusieurs cas de meurtres et cambriolages dans quelques quartiers de la ville de Goma et dans le territoire voisin de Nyiragongo. Le maire de la ville déplore qu'il y en ait parmi eux qui ont déjà été arrêtés mais relâchés par la justice. Le commissaire supérieur principal, Kapend Kamand Faustin.
Nous avons notamment les faux Wazalendo qui ont tiré sur les éléments PEM au quartier Kesher. Nous avons deux gangs civils plusieurs fois arrêtés. Troisième catégorie, il s'agit des gens qui organisent les fumoirs.
La criminalité dans la ville de Goma, et plus particulièrement dans la commune de Karisimbi, devient inquiétante, ajoute le président du conseil de la jeunesse de cette entité. Celui-ci plaide pour le renforcement de l'opération s'affiche à Mujo à Goma par des bouclages. Claude Rougo.
Paisible citoyen du quartier Mabanga Nord, Kasika et du quartier Mabanga Sud. Ça fait au moins une semaine que dorment sous les coups de balle, que les autorités voient comment organiser le bouclage dans le Kakatindo.
Suite à son lancement en avril dernier à Goma, cette opération a permis d'appréhender près de 300 présumés criminels. Cependant, la hausse de la criminalité dans la ville reste loin d'être endiguée. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Kapi.
Vous le savez, aujourd'hui le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans son message à cette occasion, Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, souligne que cette année, cette commémoration revêt une signification particulière dans le contexte de la République démocratique du Congo en raison de l'escalade des attaques contre les populations civiles et les acteurs humanitaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués et 11 enlevés entre janvier et juin de cette année, avec plus de 200 incidents ayant directement ciblé les humanitaires sur le terrain. Les souvenirs de nos deux collègues tués le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire par des groupes de jeunes armés à Butembo est encore vif dans nos esprits, dit-il. D'autres détails dans ces messages avec vous, Jocelyne Moussao.
Cette année, le thème choisi pour la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, Agir pour l'humanité, est un appel à l'action. Nous devons agir pour protéger les populations civiles et les humanitaires contre la violence, agir contre l'impunité des auteurs d'attaques contre les humanitaires et les civils, agir pour la paix. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril les fondamentaux des droits humains, notamment l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse, indique Bruno Lemarquis. Cette spirale de violence et de souffrance détruit les fondements de la cohésion sociale et de la paix. Elle détruit également les écoles et les centres de santé. Elle prive des milliers d'enfants du droit à l'éducation et des communautés entières de l'accès aux soins de santé. Au premier semestre 2024, environ 7,3 millions de personnes étaient déplacées en RDC, ce qui correspond à plus de 400 000 nouvelles personnes déplacées depuis décembre 2023. Cependant, le plan de réponse humanitaire pour 2024 est financé à seulement 35%, ce qui signifie que des centaines de milliers de personnes vulnérables sont laissées pour compte, s'inquiète le coordonnateur humanitaire en RDC.
À la fonction publique, les fonctionnaires de l'État sont contraints de respecter les nouvelles horaires des services qui entrent en vigueur depuis le 2 août. Cet horaire leur permet dorénavant de venir au travail à 8 heures juste pour rentrer à 16 heures. Mais voilà, après plus de 2 semaines d'application de cet horaire, des voix s'élèvent pour déplorer les difficultés des transports, notamment auxquelles font face les agents de l'État pour venir à temps au travail. Entre-temps sur place, cette nouvelle mesure a créé un engouement des travailleurs dans les différents bureaux où les places sont limitées. Reportage à Skenzigbia Tayoro.
L'encombrement des différents bureaux à la fonction publique est une réalité. La mise en vigueur stricte de nouveaux horaires a été prise au sérieux par bon nombre de fonctionnaires de l'État. Ils viennent maintenant nombreux au travail, ce qui pose un problème d'espace, atteste l'agent de l'État, Gilles Botialina.
Ces mesures sont bonnes, mais normalement ça devrait d'abord commencer par l'amélioration des conditions de travail. Actuellement, dans un bureau, vous pouvez vous retrouver au nombre de 6, 7, voire même 30. On est censé faire des rotations contre des locaux, ça ne peut pas nous contenir par rapport à l'effectif.
Par ailleurs, selon le témoignage, les nouveaux horaires s'appliquent avec peine. La majorité des fonctionnaires de l'État se lamentent des difficultés de transport pour arriver au travail. Touré Kilori Okale, agent au ministère de Budget.
Les conditions ne sont pas réunies, entre autres. La distance, nous sommes dans un milieu qui n'a pas de route, les embouteillages nous bloquent. Au niveau des services, il y a maintenant les chefs de services qui prennent rigueur. Si vous arrivez à 8h30, vous devenez retardataire.
Au cabinet du ministre de la fonction publique, on affirme que la nouvelle réglementation a été prise dans le sens, entre autres, de renforcer la discipline, la productivité du travail de l'État et d'assainir les ressources humaines en vue d'avoir un agent pour poste et un salaire.
Direction la province du Congo central, à partir du 20 août, les femmes enceintes vont désormais bénéficier gratuitement des soins liés à la consultation prénatale et aux accouchements dans les formations médicales publiques. La nouvelle a été annoncée au vice-gouverneur de province, Prosper Ntelantambidila, vendredi dernier par une délégation du Fonds des solidarités de santé FSS. D'après le docteur Pharaon Nyamurara, qui a conduit cette délégation au Congo central, cette gratuité de la maternité est une réponse efficace pour la mortalité maternelle et infantile. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
La raison de notre présence ici était de partager avec l'autorité suprême de la province les aspects de la couverture santé universelle qui ont été libellés à partir de l'ordonnance loi du chef de l'État pour permettre à toute la population de se faire soigner ou le lancement effectif de la maternité gratuite et des soins aux nouveau-nés à partir de la semaine prochaine. La population doit s'attendre à ce que toutes les mamans enceintes, à partir du moment où le lancement sera annoncé, que chaque maman enceinte a automatiquement des soins gratuits, peu importe la maladie dont elle souffre. Elle devra accoucher gratuitement, peu importe le mode d'accouchement, que ce soit une césarienne ou un accouchement ectopique, comme on l'appelle. Elle devra faire sa consultation prénatale gratuitement. Et l'enfant nouveau-né devra être suivi pendant un mois pour être soigné aussi, sans payer un seul franc.
Rendons-nous dans la ville de Guémena, dans le sud du Bangui, où les ministres provinciaux ont été investis samedi par l'Assemblée provinciale réunie en session extraordinaire depuis une semaine. L'Assemblée provinciale n'attendait jusque là que la publication de l'équipe gouvernementale intervenue tard la nuit de jeudi. C'est après plusieurs tractations entre les forces politiques de la province que le gouverneur a publié son gouvernement en vue de relever les défis auxquels la province est confrontée. Les comptes rendus de Paul Richard Malengela.
L'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, expressément convoquée en session extraordinaire, vient de procéder à l'investiture du nouveau gouvernement provincial. La cérémonie a eu lieu au cours d'une plénière solennelle, a précisé le vice-président de l'organe délibérant, Papi Malumba. Conformément à la loi en vigueur, le gouverneur Michel Mobonga a formé une équipe de 10 ministres, dont une seule femme. 3 anciens ministres y sont repris, au poste actuel de ministre de la Justice, du Genre, ainsi qu'au secrétariat exécutif du gouvernement. Selon le poids politique, les postes sont répartis principalement entre le MLC, le CDR et la REP. Si le puissant ministère de l'Intérieur, Sécurité et Ordre Public est attribué à Gabriel Mbombo, l'unique femme ministre, Marie-Thérèse Tontoua, elle, est nommée à la tête du Genre, Famille et Enfants, Culture et Arts, Communication et Médias. Entre-temps, le cadre de concertation de la société civile de Sud-Ubangi se réjouit à travers son président Gilles Mopila. Il formule les attentes de voir ce gouvernement juguler entre autres l'insécurité alimentée par des braquages, mais aussi améliorer le mauvais climat des affaires et la mauvaise gouvernance dans l'administration, les finances et la justice. Bondaka, Porsche Malengela, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, près de 3 tonnes de semences améliorées de maïs et 50 hectares de boutures de manioc traînent encore en Kwadi dans les territoires de Tshilenge. D'après le chef de bureau de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, ITA, ces semences améliorées ont été produites au cours de la saison culturelle B par son institution en collaboration avec l'INERA Ngandanjika et elles devraient être distribuées aux paysans à la saison culturelle A par les gouvernements provinciaux. Docteur Paul Dontsop craint que ces semences ne puissent être attaquées par les insectes avant leur utilisation. Docteur Paul Dontsop, chef du bureau de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, ITA, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons produit en collaboration avec l'INERA environ, pour l'année passée, on avait 3,5 tonnes qu'on a remis au gouvernement pour la distribution aux ménages. Nous avions fait environ 50 hectares de boutures de manioc et ces 50 hectares devaient aider à planter 500 hectares en milieu paysan que nous avons rétrocédé au gouvernement. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore pris ces variétés. Comme je disais, les quantités de maïs sont toujours en Kouadi. Les quantités de manioc, il y avait un site en Gandajika et ici en Kouadi. Donc, tous ces champs sont encore là. Et donc, le gouvernement peut toujours avoir accès à ça. Il faut juste faire l'inventaire pour voir si on n'a pas volé entre-temps. Mais en tout cas, je suis très sûr qu'on peut toujours avoir environ 40 hectares de boutures saines de manioc qu'on peut distribuer directement aux paysans.
Actualité internationale. Au Tchad, les bilans des intempéries ne cessent de s'alourdir, notamment au Tibesti. Le Tchad subit toujours les conséquences de récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale et plusieurs provinces du pays. Celle du Tibesti, dans l'extrême nord désertique du Tchad, ne cesse d'enregistrer des nouveaux morts selon les autorités locales. Là-bas, les inondations ont débuté le 9 août. Les autorités locales et certaines organisations de la société civile déplorent surtout les manques d'assistance aux victimes.
L'invité.
Les libérations hebdomadaires des prisonniers de Makala ne vont rien résoudre en ce qui concerne la surpopulation carcérale si les magistrats du parquet qui sont à la base de cette surpopulation demeurent impunis. C'est une alerte lancée par le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, l'ONGDH, habitué à faire les monitorings des prisons congolaises. Emmanuel Adoukolé, qui Radio Kapi reçoit dans ce journal, salue la bonne volonté politique du ministre de la Justice de désengorger drastiquement la prison centrale de Makala, mais il estime que cela ne suffit pas et qu'il y a encore beaucoup à faire pour construire un véritable état des droits en RDC. Emmanuel Adoukolé s'entretient avec Jeff Ngoy.
Emmanuel Adoukolé, bonjour. Quel état des lieux pouvez-vous nous faire sur la situation carcérale à la prison centrale de Makala?
Bon, aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec la volonté du nouveau ministre de la Justice, Constant Mutamba, les choses commencent à être améliorées parce qu'il a amené des matelas, 2000 matelas, il a promis qu'il va commander 7000 matelas. Mais le problème de donner les dons matelas aux détenus, ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi l'installation de l'eau soit être établie parce que l'eau ne coule pas dans les prisons. Et vous trouvez un prisonnier qui peut faire une semaine, un mois sans être lavé. Et si vous lui donnez le matelas et que ces détenus ne se lavent pas, le matelas est abîmé. Et aussi, comme le ministre a la volonté de désengagement. Mais désengagement en train de faire, mais même moment aussi, on libère sans aujourd'hui.
Le même jour, il y a encore de nouveaux prisonniers qui sont envoyés en prison.
Donc, il faut faire un monitoring pour que le dossier, le cabana, on n'envoie pas en prison. Pour évacuer d'abord, désengorger d'abord les prisons avant d'amener les nouveaux. Et aussi, il faut lutter contre les arrestations arbitraires dans le cachot, clandestin, Demiab, Anes, CNS et ainsi et là.
Selon vous, le désengorgement auquel on assiste tous les jours ici, chaque semaine, 500 au moins. On en est maintenant à 1000 libérations et il veut atteindre 8000. Est-ce que cela constitue une solution durable à la problématique de la surpopulation carcérale?
Bon, désengorgement des prisons n'a pas la solution. La solution, c'est c'est-à-dire lutter très efficacement contre les arrestations arbitraires. C'est ça, parce que ce sont les arrestations arbitraires qui font en sorte que les prisons sous-populées. Parce qu'on peut libérer 800 ou bien 8000, mais après, à un certain temps, ça va dépasser les 8000. La société civile doit constituer partie civile pour porter plainte contre le ministre public. Parce que c'est eux qui sont à la base des décès quotidiens dans les prisons. Parce que c'est le magistrat, c'est le parquet qui arrête et c'est le parquet qui libère. Donc, s'il y a surpopulation en France, s'il y a des décès quotidiens, c'est à cause des magistrats qui ne respectent pas les délais à laquelle le peuple congolais a confié. Au plus, comme le ministre, c'est un homme politique, on ne peut pas l'atteindre facilement. Maintenant, il faut chercher à atteindre le directeur de prison qui est gardien simple. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un directeur de prison est menacé par un magistrat pour avoir libéré une personne qui est détenue arbitrairement ou bien illégalement.
Ce n'est pas le directeur qui libère. Ce n'est qu'un simple gardien de la prison après 1000 libérations. Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse et la situation des cachots, d'où viennent tous ces détenus qu'on amène à Makala?
Mais vous voyez le cachot de la Gombe, où là se trouve le PGR. Lorsque vous entrez dans cette cachot, bien qu'on ait été arrangé cette fois-là, mais à l'époque, vous dormez là-bas, Kafa commence à vous manger. Vous allez dans tout le cachot de Kalamu, c'est pire, à Matete, pire. Donc, la détention dans le cachot est tellement infrahumaine. On ne peut pas parler d'un état de droit. loi, c'est déplorable. Donc, je crois que nous avons beaucoup à faire pour que vraiment RDC devienne un état de droit.
Et ils sont maintenant combien à Makala?
Au Makala, le chiffre n'a pas bougé. On veut 15 000 parce que avec les Corona, avec les forces de progrès qui viennent d'être achetées, tout cela. Donc, je vais vous dire que les libérations de ministres n'ont pas dépassé 15 000. Donc, nous voulons que, comme Rumé m'a dit, pour faire en sorte que les prisons diminuent jusqu'à 5 à 6 000, tel qu'il était à l'époque. Parce que il y a l'étouffement aussi. Et avec le chalet qui va arriver le mois de septembre, en tout cas, si on ne fait rien dans les médias, on doit voir beaucoup de décès.
Est-ce que la construction d'une nouvelle prison ou des nouvelles prisons ne peut pas constituer aussi une solution à ces problèmes carcérales? Oui. Puisque cette prison-là était construite à l'époque pour le ressort de Gombe, il n'y avait pas encore toutes les 24 communes que nous avons aujourd'hui.
Oui, mais le problème ne reste pas pour construire, parce qu'on parle souvent à Kinshasa, mais tout les prisons dans la province, ils sont dans un détablement avancé. Donc, c'est le raison dans lequel vous constatez que nous avons eu à Ituri, l'évasion spectaculaire, Grand Katanga, aussi Isuru, passé par là, il y a l'évasion et tout ça là. Ça cause le mauvais état de la prison. Donc, il faut aussi réhabiliter l'ancien prison existant et il faut construire une nouvelle prison. Et aussi, il faudra que les prisonniers, ils doivent avoir une formation professionnelle.
Il n'existe pas de formation. Un travail d'apprentissage à la prison. On y entre et on en sort sans avoir rien appris.
Tout à fait.
Emmanuel Adoukolé, je vous remercie.
Moi également.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Kapi. Mise en onde par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Alain Irung Moshinge. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.